Une année scolaire dantesque, à l'heure où profs, élèves et parents partent en vacances. Nous avons voulu savoir à quel point la crise que l'on vient de traverser bouleverse l'éducation de la jeunesse française. Et pour ce vaste sujet, deux invités ce matin. Didier Georges, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le principal du collège de la Grange-aux-Belles, c'est dans le 10e arrondissement à Paris, c'est en REP. Et Pascal Haag, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes vous en studio, chercheuse en psychologie à l'EHESS, spécialiste des questions d'éducation. Ma première question est pour Didier Georges. Dites-nous d'abord, dans quel état vous terminez cette année scolaire?
Alors, particulièrement épuisé pour ce qui est des personnels, si je peux me permettre, mais assez joyeux dans l'ensemble, puisque le retour qui a été programmé le 22 juin, en tout cas sur l'Île-de-France, puisque auparavant nous étions encore en zone rouge, le retour s'est fait vraiment avec un enthousiasme non dissimulé de la part des enseignants qui étaient absolument ravis de retrouver leurs élèves après cette longue interruption, et puis de la part des élèves qui ont fait preuve, je trouve, en tout cas c'est une appréciation personnelle, d'un véritable enthousiasme pour ce retour.
Elles étaient très importantes, ces deux semaines de reprise, même si ce n'était que deux semaines de reprise avant les grandes vacances.
L'enjeu n'était pas scolaire, ne portait pas sur les connaissances et les compétences que nous sommes normalement censés apporter aux élèves. L'enjeu, il était symbolique. Il faut s'apercevoir quand même que si les élèves n'étaient pas rentrés dans leurs établissements scolaires, pour la majorité d'entre eux, ça aurait fait une rupture de plus de 5 mois sans mettre les pieds à l'école. Et fondamentalement, c'était presque inimaginable pour nous.
Est-ce que dans votre collège, qui est classé REP, dans le 10e arrondissement de Paris, vous avez eu beaucoup de décrocheurs, entre guillemets, pendant cette période de confinement, des élèves que vous avez perdu de vue totalement?
Alors, on en a eu quelques-uns, très peu, en proportion, on était à 1 ou 2% maximum. Ce sont surtout, alors perdu de vue, pas du tout. On a réussi à établir le contact avec l'ensemble des élèves. La question porte plutôt sur leur capacité, leur volonté surtout à se mettre au travail à distance. Et pour 1 à 2% d'entre eux, on a rencontré quand même une situation d'opposition, hein, refuser de travailler à distance.
Pascal Haag, vous êtes expert chercheuse en psychologie. Elle a été dure cette coupure pour les enfants?
Alors, moi, en tant que chercheuse, j'ai souhaité leur donner la parole, parce qu'effectivement, j'ai trouvé qu'au début du confinement, on n'entendait pas beaucoup la voix des enfants. Et donc, j'ai mené une enquête auprès des élèves, et je pense que ça a été dur pour les enfants. Et notamment, ils ont signalé que ce qui leur manquait le plus, c'était les amis, les cours et les profs.
Donc, les profs effectivement, ont manqué, ça vient, c'est ce qu'on entend.
Absolument, ouais. Ça vient confirmer ce que vient de nous dire mon
Didier
collègue.
Georges, ouais.
Et en revanche, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'ils ont pu apprécier, en tout cas pour certains d'entre eux. On leur a posé la question de savoir s'ils avaient retiré quelque chose de positif quand même de cette période.
Ce n'est pas qu'un traumatisme, ce confinement.
Exactement. Alors en tant qu'adulte, bien sûr, on s'inquiète des enfants et on a tendance à voir tout ce qui a pu être compliqué. On sait très bien que ça a accentué les inégalités, que ça a été compliqué pour les familles, etc., etc. Donc il ne s'agit pas de nier la difficulté, mais d'essayer de voir quels sont les points d'appui sur lesquels on pourrait s'appuyer pour la suite. Et donc ce qu'ils ont dit, eux, c'est ce qu'ils ont apprécié, c'est de pouvoir gagner en autonomie, de pouvoir travailler à leur rythme. Il y a eu beaucoup d'éléments sur ce qu'on peut qualifier de qualité de vie, le fait de pouvoir se lever un peu plus tard, le fait de pouvoir manger à la maison, le fait de passer plus de temps en famille. Et pour certains enfants, c'est vraiment compliqué, la vie à l'école au quotidien. On sait que la cantine, il y a pas mal de choses qui sont pas évidentes. Et donc surtout, ce gain d'autonomie a été particulièrement saillant.
Didier Georges, vous confirmez, vous avez retrouvé vos élèves plus autonomes après cette période?
Absolument, évidemment l'enseignement à distance tel qu'il a été pratiqué, alors avec de multiples variations dans la méthode, a forcément développé cette compétence chez les élèves, et on l'a constaté. J'oserais même dire, on l'a presque tous constaté quand on est parents également, puisque ça peut évidemment nous arriver, et on a tous vu nos enfants avancer de manière beaucoup plus autonome au fil du temps. D'abord parce que, je vais faire peut-être une petite incise, une anecdote, mais parce que les enfants en ont aussi parfois eu un petit peu marre d'avoir leurs parents sur le dos pour faire leurs devoirs.
Ouais.
Et ils ont développé une compétence d'autonomie assez importante là-dessus.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même, Didier Georges, des angoisses sur on prend du retard sur les programmes, on manque plein de choses, on n'apprend pas autant de choses qu'on aurait dû?
Évidemment. Alors, cette angoisse, elle était surtout, moi je l'ai surtout ressentie chez les enseignants. Mais pour l'essentiel d'entre eux, parce qu'il faut souligner l'énorme investissement des équipes pédagogiques et ça partout sur le territoire national, pour beaucoup d'entre eux, l'enjeu n'était pas forcément dans la progression. Et ils ont constaté assez rapidement que malgré les écueils qui pouvaient être ceux du distanciel, ils arrivaient quand même à avancer. Alors, avec une majorité de leurs élèves, la difficulté portant essentiellement sur ceux qui n'avançaient pas, évidemment, comme il se doit. Alors, pour plein de raisons, et puis il y a plein d'explications différentes. Il y avait des difficultés d'accès au numérique, par exemple, qui ont été assez prégnantes. Et puis après, il y avait des difficultés de connaissances techniques des élèves sur les outils qu'on peut utiliser en forme distancielle. Ce qui nous conduit d'ailleurs à beaucoup réfléchir pour la prochaine rentrée sur la manière dont on peut apprendre aux élèves maintenant, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir, de bien utiliser les outils numériques qui sont à notre disposition pour qu'on n'ait pas cet écueil-là. Mais beaucoup d'enseignants, moi, m'ont fait un retour très positif quand même sur leur progression pédagogique. Et ça, c'est extrêmement positif. On ne s'y attendait pas forcément.
Alors, quand même, pour rattraper un certain retard, le ministère, lui, a décidé de laisser les écoles, les collèges, les lycées ouverts pendant l'été. C'est école ouverte. Hein. Vous, dans votre collège du 10e arrondissement à Paris, Didier Georges, ça a commencé lundi, hein, comme partout en France. Comment ça se passe? Vous avez des élèves qui viennent aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, non. Mais jusqu'à hier, oui.
Enfin, pas samedi, oui, mais cette semaine.
Nous sommes samedi, mais
oui, pas le week-end quand même.
Une trentaine d'élèves qui sont venus chaque jour au collège, matin et après-midi, alors pour suivre à la fois des séquences un peu pédagogiques et qui sont un peu plus scolaires, le matin en particulier, et puis l'après-midi, on est sur des dispositifs et des propositions qui sont un petit peu plus ludiques, culturelles, sportives. Ce dispositif, il existe depuis très longtemps, école ouverte. Hein. Le ministre a simplement souhaité le renforcer de manière un peu spectaculaire parce que le confinement a induit l'idée qu'il fallait essayer encore de récupérer un petit peu de temps sur le temps perdu.
En fait. Et les profs ont répondu présents. Vous nous avez dit qu'ils étaient épuisés après une telle année.
Alors, sur cette première session de juillet, pour vous répondre tout à fait franchement, ça a été difficile de recruter des enseignants parce qu'ils étaient absolument épuisés. Il faut comprendre que l'enseignement à distance est certainement plus épuisant que l'enseignement en présentiel. C'est le retour en tout cas que j'en ai de pratiquement tous mes enseignants. Et tous ceux qui se sont beaucoup investis me disent que c'est beaucoup plus fatigant finalement de devoir tout reconstruire en mode distanciel qu'en mode présentiel. Donc ils ont vraiment fini cette fin d'année scolaire essorée, si je peux me permettre cette expression. Et ça a été un petit peu plus compliqué de trouver des volontaires. Par contre, voilà, pour la session d'août,
les deux dernières semaines d'août, oui,
tout de suite plus facile.
Pascal Hague, du côté des enfants, est-ce qu'ils sont pas épuisés aussi? Est-ce qu'il fallait pas les laisser tranquilles cet été?
Alors que les enfants soient épuisés, c'est absolument certain.
Et ils n'ont pas été en vacances, les collègues, hein, pendant le confinement.
Voilà, ils n'étaient pas en vacances et c'était une source de tension pour eux aussi. Ils ont dû, eux aussi, comme les enseignants, se réinventer par rapport à l'enseignement à distance. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire laisser tranquille? Parce qu'un enfant est naturellement curieux, a envie d'apprendre et je trouve que les activités qui peuvent être proposées, qui font une remédiation ludique, qui permettent, il y avait aussi l'idée de découvrir des territoires, pas dans le dispositif école ouverte.
Il y a plusieurs dispositifs. Il y a école ouverte, il y a les colonies apprenantes, les colos apprenantes, et puis il y a également l'école buissonnière ouverte. Voilà, on envoie des enfants sur le littoral, par exemple, pour leur faire découvrir la mer ou à la campagne. Ça, vous êtes plutôt d'accord.
Et je pense que pour les enfants, d'apprendre de manière différente et ce dont ils ont besoin, et ce qui suggérait d'ailleurs dans l'enquête, c'est d'être plus acteurs de leurs apprentissages. Ils disaient proposer des activités plus intéressantes. Et c'est vrai que les enseignants ont essayé de leur proposer des activités diversifiées, mais pour certains, ils se sont retrouvés avec des devoirs à faire qui se retrouvent à faire tout seul. Et finalement, de travailler de manière différente, de mener des enquêtes, d'aller faire des recherches, d'aller apprendre de manière différente en étant plus actifs, plus mobilisés et en partant de leur centre d'intérêt propre, je pense, peut permettre de rattraper en partie. On ne rattrapera pas tout.
Mais cette coupure de juillet-août, elle est quand même traditionnelle d'une part. Est-ce qu'elle n'est pas tout à fait nécessaire, vitale pour repartir avec plein d'énergie aussi, aussi bien pour les élèves que pour les profs d'ailleurs, au mois de septembre et pour les parents peut-être?
Alors la coupure est indispensable, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qu'on sait, c'est aussi que c'est une période qui contribue encore plus à accroître les inégalités parce que les enfants de milieux favorisés vont avoir des vacances, qu'on les appelle comme ça ou non, qui seront apprenantes parce qu'on va les emmener visiter des musées, on va lire des livres en famille, etc. Il va y avoir des activités qui vont finalement contribuer à renforcer ou à ancrer les apprentissages de manière informelle. Les enfants de milieux plus modestes, tout dépend des activités qui leur seront proposées. Je pense qu'ils seront mieux sur le littoral à découvrir la mer que dans leur cité à traîner. Donc je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de veiller à ce que cette période estivale ne contribue pas à accentuer encore davantage les inégalités. Le phénomène est connu, il est bien documenté à l'échelle mondiale.
Didier Georges, vous vouliez réagir ?
Alors simplement pour préciser que au-delà du dispositif École ouverte qui est porté par l'Éducation nationale, les événements nous ont aussi conduit à monter un certain nombre de partenariats et un certain nombre de collèges. Je vais parler de Paris puisque c'est quand même la zone que je connais le mieux, seront ouverts tout l'été. C'est mon cas. Le collège sera ouvert chaque jour de cet été. Simplement, c'est pas l'Éducation nationale qui va porter toute l'action en continu pendant ces 2 mois de coupure. Ce sont des partenariats que nous avons construits avec des structures associatives locales ou des structures départementales. La DASCO de Paris, par exemple, va être maître d'œuvre aussi dans ce domaine. Et eux vont prendre le relais d'école ouverte. Ce qui fait que ces enfants...
Il n'y aura pas de coupure entre mi-juillet et mi-août, quoi. On s'occupe des enfants vraiment tout l'été.
Il y a une offre qui est multipartenariale et qui va permettre aux enfants qui n'auront pas cette année peut-être la chance de partir en vacances parce que les problématiques de transport, les restrictions qui sont mises dans certains pays vont les conduire
beaucoup vont rester à Paris ou là où ils habitent.
Il y a eu un vrai développement de l'offre pour l'été qui s'inscrit de toute façon dans le dispositif d'école apprenante.
Je voudrais qu'on se projette déjà vers la rentrée, puisque la circulaire de rentrée, ce document du ministère qui donne les grandes orientations pour l'année scolaire à venir, elle est parue hier soir. Je voudrais vous demander votre avis d'abord à vous, Didier Georges, qui est principal d'un collège à Paris. On apprend déjà qu'il y a des postes supplémentaires dans le premier degré, 1688 postes supplémentaires. On apprend aussi qu'il y a 8000 nouveaux postes d'accompagnants pour les élèves en situation de handicap. Et ce qui marque aussi, c'est 1,5 million d'heures supplémentaires mobilisées pour renforcer l'accompagnement personnalisé et l'aide aux devoirs. C'est important, ces heures supplémentaires ?
Alors, c'est important pour cette frange d'élèves qui n'a pas bénéficié, j'allais dire, à plein régime de l'école à distance. Et je pense en particulier, pour ce qui me concerne, aux élèves de CM2 qui vont entrer en 6e à la prochaine rentrée et qui, sur un certain nombre de compétences, alors me viennent comme ça, les compétences de lecture, de compréhension de ce que les enfants lisent, les compétences de calcul, les fondamentaux, ils n'ont pas forcément été au bout des acquisitions en termes de compétences. Et je crois que ce volet d'heures, si j'ai bien lu la circulaire, va être consacré en particulier à tous ces élèves qui ne bénéficient pas, qui n'ont pas bénéficié pleinement de l'école à distance et pour lesquels on va mettre en place sans doute, à raison de quelques 5 heures par semaine éventuellement.
Oui, c'est la priorité au 6e, hein, jusqu'à 5 heures d'accompagnement personnalisé.
C'est ça, c'est pour récupérer, ou j'aime pas beaucoup cette expression, mais c'est pour essayer en tout cas de remettre les élèves à un niveau satisfaisant de maîtrise des compétences fondamentales. Et il nous est même d'ailleurs demandé si la lecture que j'en ai faite est bonne, de plutôt ne pas ajouter des heures.
Oui, c'est à la place
élèves,
hein, d'autres enseignements.
Mais plutôt les extraire de certains cours pour leur permettre de compenser un petit peu ces difficultés qu'ils ont rencontrées pendant l'enseignement.
Mais alors justement, vous allez devoir sacrifier des matières pour caser ces 5 heures d'accompagnement personnalisé. Ça s'annonce être un joli casse-tête, non, avec les profs ?
Alors c'est quelque chose qu'on sait normalement très bien faire, c'est un jeu d'emploi du temps. Le pragmatique que je suis a envie de vous répondre qu'un élève qui arrive avec des difficultés de lecture, de compréhension écrite, et qui ne maîtrise pas forcément les fondamentaux du calcul et des nombres, de toute façon, va souvent être un petit peu en décalage avec un certain nombre de ses camarades qui, eux, ont toute cette maîtrise. Donc autant essayer, effectivement, de rattraper ça le plus vite possible, sinon le décalage, il va être pendant 4 ans au collège. Et la difficulté va être toujours prégnante, elle va toujours être là, comme une épée de Damoclès, alors que si on arrive, grâce à cette politique induite par le ministre, à faire en sorte qu'un certain nombre d'élèves se remettent à un niveau de socle à peu près commun, ce sont des élèves qui seront dans de meilleures conditions, sans doute à partir du mois de novembre, décembre, pour suivre les cours banals. Donc C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément expérimenté sur de manière pratique dans les établissements scolaires. La situation d'extraction est assez inédite, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ça fait 17 ans que je dirige les établissements scolaires et je me dis que c'est peut-être
vous pourriez le tenter.
Une solution.
La circulaire parle également de l'école en ligne, à renforcer les environnements numériques du travail. Pascal Hague, c'est l'école de demain, l'école numérique, l'école en ligne, en quelques mots?
J'espère bien que ça sera pas que l'école de demain, l'école en ligne. On parle de plus en plus d'enseignement hybride ou blended learning, où on peut faire alterner l'enseignement en ligne avec l'enseignement en présentiel. Mais ce que le confinement a montré, c'est aussi que la relation est centrale, que la relation à distance, elle peut se poursuivre, c'est un pis-aller, mais que la relation à la fois entre pairs et avec les enseignants, elle se fait à l'école, elle se fait dans les échanges, et donc l'école à distance uniquement permet éventuellement d'assurer un certain nombre d'apprentissages, mais pas toute la dimension de sociabilité qui est aussi une grande partie du rôle de l'école.
On avait encore plein de questions, mais on doit s'arrêter là. Merci beaucoup Pascal Hague d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en psychologie à l'EHESS, fondatrice de ce réseau de chercheurs, aussi sur l'éducation Lab School Network. Je remercie également Didier Georges, principal du collège de la Grange-Belle dans le 10e à Paris, en Rège. Je vous souhaite quand même de bonnes vacances et bonne journée à vous.